Les As de la CoPro, l'analyse des experts.
Alors là, on a 10 petites minutes. Alexis De Coster, bonjour Alexis.
Bonjour Gilles.
Voilà, vous êtes de retour parmi nous. Et Sabrina Meghetti, de retour parmi nous également. Très heureux de vous revoir.
Bonjour Gilles.
10 minutes là sur la surélévation. La surélévation en copropriété, le syndicat des copropriétaires, avec son syndic, construisent un étage supplémentaire. Voilà, on en parle. Comment ça se passe? Dans les grandes lignes, d'abord, Alexis, quelles sont les étapes clés ou les points essentiels à retenir sur cette opération assez spécifique de surélévation d'immeubles?
Alors, on parle de surélévation. Déjà, la terminologie est importante, hein, puisque la surélévation se distingue du simple redressement des combles. On a des définitions assez spécifiques, hein. La surélévation, c'est la prolongation verticale des façades et un exhaussement, donc c'est assez précis, ou c'est la modification du faîtage pour le porter à la hauteur maximale autorisée sur toute la longueur du bâtiment. J'adore cette expression, je trouve ça assez joli. La surélévation, c'est quoi? C'est un accessoire des parties communes, article 3. Ce droit de surélévation, en fait, il appartient à l'ensemble des copropriétaires. Mais deux possibilités sont offertes au syndicat des copropriétaires pour, procéder à une surélévation sur leur bâtiment. Tout d'abord, le syndicat des copropriétaires peut choisir d'effectuer lui-même l'opération de surélévation pour créer de nouveaux locaux privatifs. Première option. Seconde option, il peut décider de céder le droit de surélever, par exemple à un promoteur qui sera en charge, lui, d'opérer l'ensemble de l'opération de surélévation.
Option la plus couramment utilisée.
Option à date la plus couramment utilisée. On voit qu'on a de plus en plus d'entreprises qui se mettent un petit peu. Alors, ce qui aujourd'hui est une niche, peut-être que demain, ça se libéralisera encore plus. Donc, on a vraiment ces deux types de surélévation, avec les modalités classiques de décision d'Assemblée Générale. Alors, on a des articles spécifiques, là, article 35 et suivant sur le sujet. Un vote à la double majorité, enfin, on a deux possibilités de vote, hein, la double majorité, article 26, avec la possibilité d'opérer une passerelle 26.1, et puis un vote à la majorité absolue, dès lors que l'immeuble se situe dans le périmètre d'un droit de préemption urbain.
Les villes.
Quasiment toutes les villes. Ce sera très très souvent.
Donc majorité, donc vente du droit à construire à la majorité de l'article 25 avec la passerelle 25.1. Donc on peut vendre un droit à construire à la majorité de l'article 24.
Ouais, on peut en passer de 26 à 24. Mmh. Ça fait pas, c'est comme certaines décisions à l'époque, hein, où, comme un ravalement, on pouvait opter pour les trois types de majorité. Bah, la cession ou le droit de surélévation, c'est pareil. On passe de 26 pour arriver potentiellement à 24. Alors, les opérations sont classiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'opération classique de décision d'Assemblée Générale avec la convocation, l'ensemble des documents à la clé et le vote et le processus de vote. Donc, majoritairement, tu l'as dit Gilles, on opère par une cession du droit de surélever. Cette surélévation auprès d'opérateurs qui se sont spécialisés dans le domaine. Donc c'est à partir de là qu'on peut essayer de réfléchir un petit peu sur la manière dont ça va se passer, notamment pour le syndic, pour nous en tant que syndic, qui allons accompagner l'opération de surélévation.
Techniquement, on crée un lot transitoire et le syndicat des copropriétaires vend ce lot transitoire.
Exactement.
Et la description de ce lot transitoire, c'est un droit à construire.
C'est un droit à construire. Voilà. En fait, on va céder le syndicat de copropriétaires cède ce droit. Et donc, ce droit va être, en général, alors l'opération est assez complexe, il va être, entre guillemets, racheté par un promoteur qui, lui-même, va opérer des opérations de construction pour ensuite le revendre à des futurs copropriétaires.
Alors, moi, j'ai une question plus particulière maintenant. Je suis en train de faire une opération de surélévation. On va vendre à peu près 500 mètres carrés que le promoteur aérien va construire et va vendre 500 mètres carrés d'appartements à 15 000 euros du mètre carré vu sur la tour Eiffel. Le syndicat des copropriétaires, on a fait le plan financier, va récupérer au titre de la vente de droits à construire, comme si je vends un terrain à un promoteur, il va récupérer 800 000 euros. 800 000 euros, puisque c'est à peu près entre 10 et 15% du chiffre d'affaires du promoteur. C'est comme ça qu'on fait les calculs pour valoriser un droit à construire. Il va récupérer 800 000 euros, le promoteur va faire son chiffre d'affaires, le maître d'ouvrage, l'assistant à maîtrise d'ouvrage va faire son affaire, l'entreprise va faire son affaire. Le syndic...
Il va faire son affaire aussi ?
Là-dedans, ah oui, alors... Moi, je travaille beaucoup. Déjà, j'ai initié le projet, enfin, j'ai proposé l'idée, j'ai présenté les personnes, j'ai préparé les résolutions d'assemblée, j'ai fait des réunions d'information, j'ai fait des réunions sur place, il y a eu plusieurs assemblées générales. Je vais quand même être concerné par les travaux, d'une manière ou d'une autre, on va m'appeler. Il y a de la poussière, il y a du bruit. Là. Donc, c'est une opération qui va durer 2 ans. Le syndicat des copropriétaires va se récupérer ses 800 000 euros. Et moi, syndic, qu'est-ce que je récupère là-dessus ? Est-ce que le contrat de syndic me permet de prendre une commission, de prendre des honoraires, mais pas des honoraires pour faire 3 réunions, et pas pour suivre des travaux, des vrais honoraires, voire une commission ?
Alors, c'est vrai que quand on regarde, effectivement, les deux possibilités qui sont offertes au syndicat des copropriétaires, si je reprends l'option 1, finalement, c'est le syndicat des copropriétaires qui conserverait sa qualité de maître d'ouvrage, et à ce titre-là, on appliquerait finalement... très classiquement le contrat de syndic pour l'ensemble des opérations de suivi des travaux comme n'importe quel
pas
type de travaux qui seraient réalisés.
Là, c'est dans l'option 2 là, que je parle.
En revanche, sur l'option 2, c'est vrai qu'on cède le droit à un tiers. C'est-à-dire que c'est un promoteur, donc quelqu'un qui n'est pas copropriétaire, qui va s'opérer des opérations de surélévation. Et là, même si l'ensemble des missions sont exactement les mêmes, puisque la mission de syndic ne changerait pas entre l'option 1 et l'option 2, bah, juridiquement, ça nous pose une petite interrogation.
Il n'y a pas de ligne dans le contrat de syndic.
Puisqu'on a le sujet du contrat de syndic, on a aussi l'article 66 du décret loi Auguet, qui nous dit que le mandataire ne peut ne demander ni recevoir directement ou indirectement d'autres rémunérations à l'occasion des opérations de télécharger que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Bon, ça veut dire le syndic ne peut pas prendre une com du promoteur.
Du promoteur.
En tant qu'apporteur d'affaires, par exemple.
Quand on lit effectivement le décret de loi Auguet, on serait dans une impasse. Alors, on a malgré tout l'article 18 de la loi avec l'évolution Élan. L'article 18 a été modifié puisqu'il y a un grand 2 qui a été rajouté qui permet au syndic de conclure avec le syndicat. Alors on va voir effectivement ce que ça pose comme interrogation. Le syndic peut conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l'Assemblée Générale, etc. etc. Cette prestation ne peut figurer dans le contrat de syndic.
La fameuse convention de prestation de service de la loi Élan.
La fameuse convention de prestation de loi Élan.
Ce serait ça l'outil, le véhicule
Alors,
juridique.
On pourrait considérer qu'on puisse utiliser ça en termes d'outil juridique, puisque dans l'ensemble des opérations, il y a plusieurs opérations. Il va y avoir l'opération, je dirais, de transaction, de l'opération de vente, de cession, et puis après il y a toute l'opération finalement de suivi de travaux.
Mais pas en tant que délégué du maître d'ouvrage, puisque c'est pas le syndicat qui est maître d'ouvrage.
Mais pas en tant que délégué du maître d'ouvrage. Pour autant, je pense qu'on pourrait utiliser, oui, parce qu'on pourrait pas proposer directement la facturation, entre guillemets, la facturation.
Le promoteur qui est devenu copropriétaire d'ailleurs, puisque
il deviendra copropriétaire.
Vendu un transitoire.
C'est vrai qu'on pourrait essayer de tirer, mais je pense qu'on pourrait malgré tout utiliser la convention de prestation de loi Élan en intégrant effectivement une convention d'intermédiation. Puisqu'effectivement, on joue un peu le rôle d'intermédiaire entre un promoteur et puis le syndicat des copropriétaires, et puis qui intégrerait, outre l'acte transactionnel, bah, l'ensemble de des missions de suivi de travaux. C'est-à-dire qu'un peu à l'image du prix de vente en transaction, effectivement, bah, si l'ensemble de l'opération est à 850 000 euros, pour le compte du syndicat propriétaire, bah, il peut y avoir une quote-part, je dis n'importe quoi, 50 000 euros, qui serait à destination...
C'est exactement ça. Dans mon exemple, le syndicat va récupérer 800 000 euros, et dans le business plan qu'on présente aux promoteurs, puisqu'on fait un appel d'offres aux différents promoteurs, voilà l'opération, voilà combien ça va vous coûter. Il y a une part qui est prévue pour les syndics à hauteur de 2,5% du montant des travaux, mais ça, c'est pour l'estimation, mais ça fait 40 000 euros. 40 000 euros, il faut bien les justifier. On a vu que le contrat de syndic, c'était pas possible, parce que on n'est pas maître d'ouvrage délégué des travaux.
Et on n'a pas les...
Loi Auguet nous empêche de toucher les 40 000 euros directement du promoteur. Donc en fait, le promoteur va verser un prix global
au syndicat des copropriétaires.
En gros, il va lui verser 840 000 euros.
C'est ça.
le syndicat prend son net vendeur à 800 000 et les 40 000 euros sont reversés par le syndicat
au titre de la convention.
Via le véhicule juridique de la convention de prestation de service, l'OLAN.
Et la transparence est totale, puisqu'il y a une convention de prestation d'intermédiation, on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler comme on veut d'ailleurs, et on est bien, il y a un vote en Assemblée Générale, tout est bien, les co-auditeurs prennent une décision de la manière la plus éclairée qui soit. On respecte la convention Elan et on respecte du coup l'article 66
oui, parce que
de
la convention
de la décret,
Elan,
du décret au guet.
Il faut que ça réponde à l'objet du syndicat. Et là, on est bien dans l'objet du syndicat.
Mais c'est surtout que c'était d'abord la convention Elan, c'était d'abord un contrat entre le syndicat et le syndicat des copropriétaires. Effectivement, compte tenu du décret au guet, on ne peut pas aujourd'hui de contractualiser. Alors, on pourrait, alors, en tirant un petit peu la logique, c'est vrai qu'une fois l'acte de cession opéré, le promoteur est un quasi-copropriétaire. Donc, effectivement, on pourrait, puisqu'on a d'autres exemples, si on prend l'état daté où on peut créer une sorte de contrat.
Moi, je ne suis pas convaincu par le prêt état daté.
Un mandat direct, un contrat, un contrat de prestation de service direct entre quelqu'un qui est devenu copropriétaire.
Oui, mais je n'interviens pas en tant que syndic, ça me gêne.
Et on a une sorte de petit vide, vide juridique, non, parce que je pense qu'on peut réussir à combler ce vide avec, en justifiant via cette.
De la même manière, la convention Loëlan, mais là, c'est avec le copropriétaire individuellement. Là, l'idée, c'est vraiment de se faire rémunérer en tant que syndic. Par le syndicat des copropriétaires. Merci Alexis pour cette analyse. Sabrina, ça commence à monter, si je puis dire,
oui.
La demande.
On
en parle un peu dans les cabinets.
C'est une idée qui émerge déjà depuis quelques années, mais ça se précise d'autant plus, je trouve, aujourd'hui, avec notamment les sujets qui concernent la profession, et notamment toutes les rénovations énergétiques qui sont quand même soit à l'étude, soit qui commencent à être mises en œuvre. C'est une solution de financement, clairement. Donc, c'est un avantage pour les syndicats de copropriété. Donc, souvent, l'idée vient quand même, émerge du syndic, très généralement, il arrive parfois...
C'est lui qui apporte l'idée.
Tout à fait. Il peut arriver parfois que certains syndicats aient l'idée. Néanmoins, de tout ce que j'ai vu, c'est quand même le syndic qui apporte cette solution de financement. Donc, ça peut répondre à cette problématique. Ça répond à quelque chose qu'on peut tous comprendre. C'est vous êtes copropriétaire et vous pouvez, du coup, bénéficier d'un prix, de quelque chose qui va vous permettre soit de faire une rénovation énergétique,
récupérer de l'argent, ou des travaux, ou les deux.
Exactement, ou les deux. Et puis, par ailleurs,
on profite de l'échafaudage pour faire le ravalement.
Exactement, vous avez profité de ces travaux pour refaire ne serait-ce que votre toiture inévitablement, vu qu'on est en surélévation, donc déjà on sait que ça va être traité, mais il va y avoir d'autres exemples qu'on peut associer, et il y a aussi le fait que vous allez accueillir de nouveaux copropriétaires, quelque part, en définitif, donc vous allez réduire quelque part aussi vos charges de copropriété. Donc ça, je dirais que c'est l'avantage syndicat de copropriété. Sur le plan urbanistique, on voit aussi que ça répond aujourd'hui à des autorisations et des choses qui nous permettent de le faire.
La densification urbaine, la non-artificialisation des sols.
Exactement, d'un point de vue vertical, qui va nous permettre de répondre à des dents creuses dans des zones urbaines, des choses de ce type. Et puis, il va y avoir, évidemment, et je pense que ça répond, tout ce que nous dit Alexis depuis tout à l'heure, ça répond clairement à la question. Il va y avoir l'intérêt pour le syndic lui-même, si et seulement si, effectivement, on arrive à se faire rémunérer sous cette convention de prestation de service.
À juste titre.
Voilà, parce qu'on sait que ça va durer longtemps, mais je pense que tout le monde peut y être gagnant, et donc ça émerge de plus en plus.
Et puis c'est des sommes importantes qui sont en jeu, encore une fois. Ouais. Le syndicat récupère une grosse somme, le promoteur fait une grosse affaire. Il n'y a pas de raison que le syndic n'en profite pas, disons les choses telles qu'elles sont. Je rappelle donc à nos auditeurs que la surélévation a été facilitée effectivement par la loi Allure, qui avait modifié l'article 35, où on était passé de 26 à 25 pour la règle de majorité dans les zones de préemption urbaine, que les propriétaires du dernier étage,
selon le droit de priorité,
avaient un droit de veto avant. Aujourd'hui, elles ont un droit de priorité sur la vente du droit à construire, que le COS à l'époque avait été supprimé, donc ça permet aussi de dégager des possibilités de construction, et que effectivement aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont arrivés, des promoteurs dits aériens, et qui s'intéressent à ces petites niches, ces petites opérations, 500 mètres carrés, c'est pas grand-chose, et puis dans un contexte d'immeubles habités. Et aujourd'hui, il y a un écosystème qui est en train de se créer, et encore une fois, on le voit, et on en parlait avec Henri tout à l'heure, le syndic au cœur, encore une fois, de cette opération. Au cœur, à l'initiative, au cœur, il est là avant, il est là pendant, il est là après, il est là en tant que sachant, et tout ça doit faire évidemment l'objet d'une rémunération.
Les As de la CoPro sur Radio Immo.